Bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons ouvrir l'évangile de Thomas. Vous savez que sur notre site révélationbible.com, vous pouvez trouver déjà un peu plus d'une soixantaine de commentaires que j'ai faits sur l'évangile de Thomas. L'autre jour, en relisant ce que j'avais écrit, je me suis aperçu que l'élogion numéro 9, ou chapitre numéro 9, ça s'appelle logion, ça veut dire parole nue. Eh bien, le numéro 9 avait passé à l'as, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas fait le commentaire. Donc, je me suis mis au travail, j'ai commencé à prier, à chercher la pensée de Dieu, et puis ça m'est venu assez facilement parce qu'en fait, ce texte-là se trouve aussi dans Matthieu chapitre 13. Et c'est ce que je voudrais vous annoncer ce soir, c'est ce logion numéro 9. Alors, je vous le lis. Jésus a dit: voici que le semeur sortit. Il remplit sa paume, il jeta. Quelques graines, en fait, tombèrent sur le chemin. Les oiseaux vinrent, ils picorèrent. D'autres tombèrent sur la rocaille. Ils ne prirent pas racine dans la terre, ni ne firent lever d'épi vers le ciel. Et d'autres tombèrent sur les épines. Elles étouffèrent la semence, et le ver la mangea. Et d'autres tombèrent sur la bonne terre. Elle donna un bon fruit vers le ciel. Il en vint 60 par mesure et 120 par mesure. Voilà, mes frères et sœurs. Jésus nous envoie en tant que témoin pour semer sa parole. Nous sommes des semeurs de la parole de Dieu. Et Jésus nous montre par son enseignement que nous devons faire attention à notre façon de semer. Cette parabole ne s'adresse pas aux gens qui sont un terrain pierreux ou un terrain plein d'épines. Jésus n'est pas en train de dire: ah, attention, vous avez des épines, vous savez, ce n'est pas très bien du tout, il faudra... Non, non, il est en train de parler à ses disciples en leur disant: voilà, faites attention où vous semez la parole de Dieu. Regardez, les paysans, par exemple, ne sèment pas sur les chemins ou dans la rocaille ou parmi les épines. Jésus est obligé de dire ça parce qu'il sait très bien que les chrétiens ne sont pas toujours très sages, qu'ils sèment à tort, à travers, n'importe où, et qu'ils perdent leur temps en le faisant, en fait. Et surtout, cela contribue à donner à l'Église une mauvaise réputation. Et vous, la croissance de la parole de Dieu dans un cœur, elle dépend de l'accueil qui lui est fait. Si le grain ne tombe et ne meurt dans une terre prête à abriter sa germination et sa croissance, ben il n'en sortira rien. Vous pouvez être un bon semeur de la parole de Dieu, si le terrain n'est pas bon, ça ne donnera rien. Quand j'étais enfant, je vivais à Chèbre, dans mon village, paysan vigneron, et juste à côté de notre villa, il y avait une grande ferme tenue par la famille Bornand, et les deux frères, c'était des frères jumeaux. Je les voyais travailler au champ et je leur demandais: mais pourquoi vous êtes obligés de labourer comme ça, ensuite de passer la herse, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, ça m'intéressait. Alors ils m'ont expliqué que la terre c'est vivant, ça vit, et qu'il y a des pierres qui se trouvent des fois à un mètre sous le sol, et en une année elles peuvent remonter à la surface. Alors j'ai gardé cette information dans un recoin de ma mémoire, et puis le temps a passé, j'ai grandi, à l'âge de 18 ans je me suis converti, donc je me suis mis à lire les Écritures, et un jour je suis tombé sur l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 3 à 9, où Jésus parle justement de la semence qui tombe dans quatre sortes de terrains. Alors, j'ai lu ensuite l'explication que Jésus donne de cette parabole, au chapitre toujours 13, versets 18 à 23, et j'ai compris que Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y a qu'une sorte de personne sur quatre qui est capable de bien recevoir sa parole, mais il est en train de dire qu'il y a quatre sortes de terrains, et pour ceux qui sont au courant, ou ceux qui veulent chercher à comprendre, ils peuvent comprendre qu'un terrain ne reste pas toujours le même, mais que les terrains changent. Et que nous devons faire attention là où nous semons, peut-être. C'est pas bon de semer maintenant, mais dans une année ou deux, le terrain aura changé et voilà, ça sera possible de semer. Alors il nous parle de ne pas semer sur le chemin. Pourquoi ? Certaines personnes sont comme un chemin sur lequel tout le monde passe. C'est-à-dire que la graine de la parole de Dieu que vous pouvez mettre là, elle va être piétinée. ça ne sert pas à grand-chose. De plus, Jésus nous dit que les petits oiseaux du ciel, ils viennent pour manger. Évidemment, elles ne s'enfoncent pas dans la terre, elle est là, parce que le sol est très dur, il était piétiné, les voitures ont roulé dessus, c'est un chemin. Hein. Donc les oiseaux du ciel trouvent ça très facile de venir picorer toute cette bonne semence. Les oiseaux du ciel sont des profiteurs. Ceux qui fréquentent les milieux chrétiens, tant qu'ils en ont besoin, on trouve des oiseaux plein la Bible. Hein. Par exemple, vous avez la parabole de la graine de moutarde. Vous savez, Matthieu 13, 31, 32, où il est dit que le royaume de Dieu est semblable à une semence qui est toute petite, mais ça donne un arbre qui est géant, immense, extraordinaire, et finalement les oiseaux du ciel viennent dans ses branches. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est comme la semence. Les oiseaux du ciel ne sont pas le royaume de Dieu. Les oiseaux du ciel, c'est des parasites qui viennent profiter du royaume de Dieu. Ils profitent de la bonté des enfants de Dieu pour vivre à leur crochet. Ils viennent piailler dans l'église, ils n'apportent que des problèmes. Ils vont, ils viennent, excusez-moi, mais ils font même leurs besoins sur l'arbre. Et ils salissent tout. Enfin bon, vous voyez que dans ces deux paraboles, les petits oiseaux, ça représente quelque chose de négatif. Jésus dit c'est le mauvais, les petits oiseaux, c'est le mauvais. Pourtant c'est mignon les petits oiseaux. Oh, les jolis petits oiseaux. Cependant, ils dévorent plusieurs fois leur poids chaque jour. C'est des gloutons. Ils avalent la parole de Dieu. Ils mangent la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour être dévorée comme ça. Elle est faite pour être semée, pour porter du fruit. Jésus nous enseigne par là que l'Église doit avoir des œuvres humanitaires, mais qu'elle doit s'attendre à ce que l'humanitaire la rende plus faible si l'humanitaire est dirigé uniquement que par les bons sentiments. Et chez les chrétiens, voilà. Alors on accueille les faibles, les malades, les pauvres, les drogués. Alors, mais on ne doit pas se laisser appauvrir par eux. Il y a un moment où la présence de ces oiseaux n'est plus désirable parce qu'elle est destructrice. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un asile pour assister de tout poil. Il est normal que l'Église de Jésus-Christ aide les gens, mais il n'est pas question qu'elle se laisse dévorer et salir par ceux qui ne veulent que profiter de sa générosité. Il faut être clair. Oh, vous allez me dire, Michel, ça c'est vraiment dur. Oui, ben, je vous renvoie à Jean chapitre 6, verset 60. On disait ça aussi de Jésus. Hein, mais tes paroles sont dures, qui peut entendre ça? C'est très dur, c'est dur. Jésus continue, il dit, vous, il y a des gens, leur cœur c'est un peu comme de la rocaille. Hein, il n'y a pas beaucoup de terre. Ça, la bonne parole de Dieu tombe là sur cette rocaille, mais elle ne peut pas porter de fruits parce qu'elle ne peut pas avoir de racines, elle ne peut pas être profondément ses racines, alors elle sèche au premier coup de soleil. La graine qui sèche au premier coup de soleil, faute de racines, ça signifie quoi? Ça signifie que confrontée au soleil de justice, Dieu est le soleil de justice, hein, la Bible nous dit que Dieu est le soleil de justice, confrontée à la justice de Dieu, elle va mourir. Elle va mourir. Ce qui devrait lui donner la vie, ça va la faire mourir parce qu'elle n'a pas plongé ses racines profondément. Elle est superficielle. Et alors, aussitôt que la justice de Dieu apparaît, ça lui semble complètement insupportable. C'est dur, c'est pas bien, gna gna gna, on va trouver des défauts. C'est dur, c'est dur. Mais en fait, c'est pas Dieu qui est dur, c'est eux qui sont durs, c'est eux qui sont de la rocaille. Vous comprenez? Une personne qui a le cœur dur comme de la pierre, heureusement, elle peut changer. Souvent, de telles personnes vont être labourées par la vie, les difficultés, les épreuves, elles vont devenir finalement capables de recevoir la bonne semence, et heureusement, c'est bien. Merci Seigneur que ces deux paysans m'ont dit cette chose. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix placer de la semence dans le cœur de telles personnes. Qu'elles aillent vivre leurs épreuves dont elles ont besoin pour devenir un jour, si Dieu le veut, une bonne terre qui est capable de donner un bon fruit. Mais ça ne sert à rien de s'énerver, à semer la parole de Dieu, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Vous me direz, mais dis donc Michel, c'est dur. Eh bien, je vous renvoie à Jean 6, 60. Jésus aussi, il était accusé d'être dur, parce que c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Alors, dans le royaume de Dieu, c'est pas les pétales de rose, tout rigolo, tout gentil, Jésus avec ses, hein, son sourire angélique, merveilleux, et puis... Hein. Alors, il y a parmi les épines, il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais ils sont rongés par toutes sortes de soucis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, hein, dans Matthieu 13. Quand vous leur parlez, faire confiance à Dieu, tout ça. Alors ils vous disent qu'ils savent, ils connaissent tout ça, mais qu'ils vous regardent avec une attitude un peu méprisante au tel, ils vous disent que bon, ben, ils prient, ils font confiance à Dieu, mais bien sûr, mais enfin, quand même, si on ne fait pas soi-même les démarches légales, et comme ci et comme ça, ben, on ne va pas y arriver, enfin tu comprends rien, tu planes dans tes nuages. Voilà. Ils sont inquiets, cherchent toujours comment avoir plus d'argent, là. La parole de Dieu, ils la connaissent, savent mieux que ceux qui l'ont étudié. Donc, rien de ce que vous pouvez leur dire leur semblera juste, ils savent mieux que tout le monde. Et ils se laissent finalement étouffer, c'est ce que Jésus dit, par leurs propres soucis et par leur quête de plus d'argent. C'est les rois du détail sur lesquels ils vont buter, ils vont jamais avancer dans la vie, ils accuseront toujours les autres d'être à l'origine de leur défaite, etc., etc., etc. C'est... Le cœur est plein d'épines. Et qui s'y frotte, s'y pique. Jésus nous dit de ne pas perdre notre temps ni notre énergie avec de telles personnes. Quand elles auront débroussaillé leur vie, on pourra ensemencer leur cœur. Souvent, c'est le feu de l'épreuve qui vient à bout de ces épines. Alors, je pense qu'il vaut mieux prier pour que de telles personnes vivent leurs épreuves. La meilleure prière pour eux, c'est que le feu du Saint-Esprit ou le feu de l'épreuve fonde sur eux pour que leur vie est embroussaillée par les soucis du monde et l'attrait trompeur de l'argent, de la richesse, tout ça, toute cette broussaille s'en aille pour qu'ils deviennent un bon terrain. C'est dur, Michel, c'est dur ce que tu dis. Ben oui, je sais, Jean 6, 60, allez-y, vous verrez, c'est dur. Le problème avec ces gens-là, c'est que leurs épines produisent toujours des rejetons qui finissent par perturber la vie de l'Église. Lisez ça dans Hébreux 12, 15. Et Jésus nous enseigne par cette parabole à être sage, à ne pas semer ni sur les chemins, ni sur les pierres, ni sur les terres envahies d'épines. Ceux qui produisent rien trouvent toujours Jésus et ses serviteurs durs. Ils disent: « Maître, je savais que tu es un homme dur. » Matthieu 25, 24. « Je savais que tu es un homme dur. » Ouais, je me doutais bien. À cette sorte de personne qu'il accuse, Jésus réserve le sort suivant. « Jetez-les dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 25, 30. Ils disent que c'est Jésus qui est dur. C'est ses serviteurs qui sont durs. Mais ils ne connaissent pas les secrets des choses de l'esprit. Écoutez bien. Maintenant, il y a heureusement, ce bon souvenir de ces deux jumeaux-là, paysans, qui m'avaient dit: mais en une année, un terrain peut changer. Heureusement. C'est ce qui fait que je continue. Il y a toujours de l'espoir. Une personne chemin, une personne rocaille, une personne épine qui s'y frotte, eh bien, ça peut changer grâce à Dieu. Il arrive parfois que Dieu se lasse de voir certains qui ne produisent rien de ce qu'il attend. Alors il décide de les détruire. C'est arrivé par exemple du temps de Moïse, mais le serviteur de Dieu a prié pour le peuple et Dieu ne les détruisit pas comme il avait décidé de le faire. Vous trouvez ça dans Deutéronome 9, 8 et Deutéronome 9, 19 à 20. Alors vous direz: oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, Dieu il était terrible, maintenant Dieu a changé, Dieu est plus comme ça, dans la Nouvelle Alliance, maintenant c'est plus comme ça. Mais écoutez, alors je vais vous donner une autre parabole de Jésus, là c'est la Nouvelle Alliance. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, dans son église. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, c'est-à-dire au pasteur de l'église: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre, mon église, inutilement? Waouh, c'est dur. Le vigneron lui répondit: maître, laisse encore cette année, le temps que je creuse tout autour, que je ne le déstabilise un peu, et que j'y mette du fumier, c'est-à-dire des choses qui vont lui sembler désagréables, mais qui sont là pour le fortifier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir, sinon bah, tu le couperas. Luc 13, 6 à 9. Heureusement que ce n'est pas écrit dans l'évangile de Thomas. Il y a tellement de gens qui doutent que l'évangile de Thomas est inspiré. Mais c'est dans l'évangile de Luc, ça. Hein? Voilà un vrai pasteur. Il a compassion de l'arbre inutile, qui se nourrit, qui ne donne rien, et il plaide sa cause devant Dieu. Il intercède. Parce que Dieu dit, coupe-le, ça fait 3 ans, ça suffit maintenant, il prend de la place inutilement. Alors il intercède, et puis il se met au travail, il creuse autour de l'arbre. Alors l'arbre, il se sent secoué, déstabilisé. Et puis vous savez, quand on creuse autour d'un arbre, eh bien, très souvent, on tape sur une racine, on peut blesser la racine, ça fait mal. Désagréable. Et puis ensuite, il met du fumier. Alors l'arbre trouve que alors là, ce que le pasteur lui donne, c'est vraiment de la... disons que ça pue, voilà, c'est vraiment désagréable. Ce pasteur, il n'est pas positif, il n'est pas gentil du tout, il n'aime pas du tout les façons dures de ce soi-disant pasteur. Il ne sait pas l'arbre, il ne sait pas que Dieu a dit au pasteur, coupe-le, ça il ne sait pas. Le pasteur, il a une relation privilégiée avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'un serviteur de Dieu doit être, il doit avoir un double honneur, parce qu'il y a quelque chose. Il est entre Dieu, les hommes, il a une relation avec les hommes, une relation avec Dieu. Il est au courant d'un tas de choses, de secrets de Dieu. Il y a des conversations que Dieu n'a pas avec les brebis, mais qu'il a avec le pasteur. Et les brebis ne savent pas, et les arbres ne savent pas, et ça fait des problèmes. Et puis le pasteur, il a des tas de problèmes avec ça. Hein? Ah, ils ne savent pas. Misérables, pauvres, aveugles et nus, et ne le savent pas. Ils ne savent pas que le pasteur, ils sont en train de tout faire pour essayer de le sauver, pour l'aider. Alors l'arbre se mettra-t-il à insulter le pasteur, ou est-ce qu'il va il va enfin trouver dans le fumier ce dont il a réellement besoin pour porter du fruit? Ni Dieu, ni ses serviteurs ne sont des mollassons qui encouragent sans fin les mauvaises attitudes. Quand quelque chose ne marche pas, eh bien, Dieu et ses serviteurs sont là pour creuser et puis mettre du fumier. Et très souvent, Dieu dit coupe, hein, et le serviteur intercède, il dit non, Seigneur, non. Preuve d'amour du pasteur. C'est pas que Dieu n'aime pas. Mais vous voyez comment. C'est Jésus qui dit ça, hein. Réfléchissez-y, pensez-y. Quelle parole dure, Jean 6, 60. Et puis il y a le bon terrain. Celui qui est bien préparé à recevoir la bonne semence de Dieu, alors il va porter du fruit en abondance. Et... parce que c'est ça que Jésus exige. Il exige. C'est pas, voilà, si vous avez un peu de temps, après votre boulot, peut-être ça serait bien, ça me ferait plaisir, si vous portiez un peu de fruit, si vous pouviez être un peu productif pour mon œuvre. Non, 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 non. Jésus a dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez mes disciples, disciplinés. Jean 15, 8, puis dit aussi qu'il ne répond pas aux prières de ceux qui sont improductifs. Jean 15, 16, waouh, c'est dur. Il dit aussi que si quelqu'un porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. Jean 15, 2. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire émonder? Moi, je suis né, comme je vous ai dit, à la campagne, et les vignes et tout ça. Émonder, ça signifie couper les branches inutiles d'un arbre pour que celles qui portent du fruit en portent davantage, que la sève n'aille pas dans les branches qui ne servent à rien du tout qu'à porter des feuilles, vous savez. Alors, avez-vous compris? Dieu exige que vous soyez productif. Il veut de la production. Quelle parole dure. Jésus exige de vous le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire, il exige que vous portiez le fruit que le Saint-Esprit donne quand il peut vivre librement dans un cœur. Qu'est-ce que Dieu veut que vous produisiez? Il veut que vous produisiez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de vous-même. Vous trouvez ça dans Galates. Ah, mes frères et sœurs, quand on a l'amour, eh ben on fait le kilomètre plus. Quand on a l'amour, on ne soupçonne pas le mal. Quand on a l'amour, on ne... etc., etc. Je ne vais pas vous faire une prédication sur l'amour, ni sur la paix, ni sur la patience, ni sur la... etc. Bon, alors, pour arriver à être productif pour Dieu et son œuvre, Dieu a donné les ministères à son église, les vignerons, hein, ceux qui s'occupent dans la vigne pour creuser autour des arbres, mettre du fumier, pas le bon boulot, hein. Il a mis des ministères et il dit, Hébreux 13, 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Pourquoi ? Parce qu'ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Un vrai pasteur, il sait ça. Alors, obéissez à ceux qui vous dirigent, soyez leur soumis, ils veillent sur vous, alors qu'ils puissent le faire, veiller sur vous, vous diriger correctement, qu'ils puissent le faire, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Si vous n'êtes pas soumis, si vous n'obéissez pas au ministre que Dieu a envoyé, si vous trouvez toujours à râler, à rouspéter, oui, gna gna, pas juste, c'est trop dur, et comme ci, et comme ça, voilà. Eh bien, le pasteur, un jour, il va se lasser, il va commencer à soupirer, il ne va pas le faire avec joie, il va le faire comme une contrainte, il va dire comme Jérémie, Yahvé, tu m'as séduit, voilà, je ne parlerai plus de toi, j'en ai assez. Puis après, quand il dit, mais après, quand j'arrête de parler du Seigneur, eh bien voilà, mon âme se consume à l'intérieur de moi, je suis forcé de parler, on est forcé. Le Saint-Esprit qui est en nous nous pousse. Et alors, c'est une souffrance. Et le service. Les pasteurs, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent là, sur Internet, eh bien, ils doivent comprendre très bien ce que je dis. C'est une souffrance si les chrétiens n'obéissent pas, s'ils ne sont pas soumis, s'ils font tout à leur tête. Moi, je pense que. Oui. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Vous n'en tirerez aucun bénéfice de ne pas obéir, de ne pas être soumis. Alors là, je vous ai dit ça de la part du Seigneur et, bon, il y a les chrétiens de mon église et puis il y a aussi les chrétiens des autres églises qui écoutent ce message sur Internet. Vous êtes plus de 50 000 maintenant. Eh bien, les pasteurs peuvent me dire merci, je crois, pour une telle prédication, parce que ils n'osent pas tellement prêcher cette sorte de prédication, parce que c'est une drôle d'odeur, cette prédication, c'est un peu comme du fumier, hein, c'est désagréable, c'est dur. Alors on n'aime pas tellement les pasteurs, on aime bien être, on aime être aimé, on aime que tout se passe bien, alors. Mais il faut dire ces choses-là, il faut, parce que Jésus, il veut que chacun porte du fruit. Et si vous ne portez pas de fruits, ben c'est encore le pasteur qui va prendre sur les doigts. Nous aurons des comptes à rendre en tant que pasteur. Alors voilà, j'ai mis un peu de fumier autour de vous aujourd'hui. J'ai creusé un petit peu autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez vous rebeller? Est-ce que vous allez vous déraciner en disant « je vais aller planter mes racines ailleurs parce qu'ici c'est insupportable » Mais écoutez, je ne sais pas si vous aurez le temps. On n'a jamais vu un arbre qui s'en va tout seul. Hein. Ne soyez pas inconséquents. Faites ce que la parole de Dieu dit. Chacun rendra compte pour lui-même. Ne soupçonnez pas le mal. Bénissez Dieu en toutes choses. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.